en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Chers confrères, mesdames, messieurs, nous sommes aujourd'hui réunis pour l'installation de Philippe Garrel, élu le 27 mai 2015, membre de la section de peinture de notre académie, au fauteuil précédemment occupé par Georges Ronner. La parole est à Vladimir Veličković.
Mesdames, Messieurs, chers amis, Philippe Garrel est reçu ce jour dans notre vénérable institution. Il m'a demandé de le présenter. Pour autant qu'elle m'honore, cette mission me met dans l'embarras, comme il le serait sans doute lui-même. Si, me retournant vers lui et paraphrasant le titre du célèbre tableau de Gustave Courbet, je lui disais « Bonjour, Monsieur Garrel », afin qu'il s'explique. Dans cette œuvre de 1854, Courbet se représente face à deux personnages qu'il salue. Mais lui seul attire la lumière et lui seul émet une ombre. Le charme, le sens et le secret de ce tableau sont de la même nature que l'œuvre de Philippe Garrel. L'ombre et la lumière sont les énigmes constantes de son travail. L'interrogeant sur son premier souvenir d'une œuvre d'art, il évoque l'enfant qu'il était à Trebeurden, la petite ville de Bretagne, où il est né en 1945. Un jour, lors d'une visite en famille dans une ferme voisine, il est laissé seul par les grands qui discutent. Curieux, il vadrouille dans la maison vers une pièce sombre qui l'attire. Là, une étrange lueur perce l'obscurité. Elle flotte dans la pénombre. Brune, jaune, dorée, insaisissable. Il ne sait comment la définir. Comme une présence magique, elle l'immobilise et interloqué, il ne peut plus bouger tant il est fasciné. Peu à peu, ses yeux s'habituent à l'obscurité et il découvre, parmi les formes banales, que le fantôme qui l'a tant captivé n'est que l'or d'un cadre qui protège une peinture. Dans le cadre, il a bien une toile, mais il n'a aucun souvenir d'elle, sinon qu'elle était sombre. Ni le jeune Philippe, ni l'homme plus tard, ne sauront expliquer cette émotion qu'il évoque cependant comme un événement fondateur. Permettez-moi d'emprunter le mot de Freud en nommant ce moment sa scène primitive. N'est-ce pas là le signe par lequel commence son destin d'artiste? Notons que ce qui marque l'enfant, bien plus fort qu'aucune image ou autre chose précise, est un étonnement physique qu'il va tenter tout au long de sa vie de reproduire à travers son œuvre. Philippe Garrel est-il dessinateur, peintre, sculpteur, installationniste? Si nous prenons la peine de lire les textes, les notices et les modes d'emploi fantaisistes qui accompagnent certaines de ses pièces, ne pouvons-nous pas dire qu'il est aussi écrivain, poète plutôt? Pour preuve, les titres qu'il choisit, j'évoquerai celui de la monographie publiée par Alain Avila, « Un luxe de pénurie ». Un luxe de pénurie, voilà un oxymore qui exprime mieux que toute la conduite de sa pensée, concevoir inconcevable. Et voyez-vous, mon embarras continue. Car ce que je viens de vous dire est probablement déjà faux. Philippe Garrel est déjà ailleurs. N'est-il pas ingénieur et mécanicien? Ses objets bougent, ils s'illuminent et font du bruit, ils volent même. Pour chacun d'entre nous, il faudrait le concours d'une équipe de techniciens et d'artistes alors que pour lui, il fait cela tout seul et il s'est trouvé le temps qu'il faut, car du temps, il a une conception que nous ignorons. Ne dit-il pas, je suis d'un temps qui n'est que le mien ? N'est-il pas géomètre ? Les sciences de la perspective n'ont pas de secret pour lui, qui n'a rien appris dans les livres. Ce sont ses doigts qui connaissent intuitivement presque tous les traités. Et pour cela, ses dessins nous conduisent dans des recoins aussi profonds que fictifs de l'espace et se présentent souvent comme des anamorphoses. Faut-il vous dire que tout ce qu'il fait est parfaitement réussi, car faire et faire bien est la politesse naturelle qu'applique Philippe Garrel en toutes choses, par respect pour son public et pour les idées qu'il développe. Mais en ce moment, je souhaite dissiper tout malentendu. Philippe Garrel est l'inverse d'un touche-à-tout. Son œuvre est chargée des interrogations que l'art contemporain, comme pensée et comme acte, contient de gravité et d'ironie. Il est un artiste complet qui se tient debout face aux problèmes du monde. Un artiste n'est-il pas cet homme qui constamment se fracasse contre les murs du réel et qui trouve sa force non pas en croyant avoir réussi quelque chose, mais au contraire parce qu'il n'a pas atteint son but. C'est pour cette même raison que je partage avec Philippe Garrel cette nécessité d'aller tous les matins à l'atelier pour suivre ce qui est différemment nous démange. Quand j'ai vu ses œuvres pour la première fois, ce n'était pas loin d'ici, rue des Beaux-Arts, dans les années 70, ces années d'or du dessin. Les siennes étaient immenses, des noirs persistants. Ils représentaient des murs de salle de bain où, bien sûr, se tenait un miroir. Glace, miroir et verre. Autant d'invitations faites à l'artiste pour nous leurrer avec des fausses perspectives. Dans le célèbre tableau des époux Arnolfini, Van Eyck montre, par de nombreux jeux de reflets, à la fois ce qui est au-devant de lui et ce qui est derrière son dos. Les peintres du XVIIe siècle, notamment en Hollande, excellent dans ce genre qui, au-delà des représentations, évoquait la vanité des apparences. Avec ces représentations, Garrel, lui aussi, installe le réel dans le doute. Un doute grave, mais souvent plaisant, où pointe l'ironie. Jamais sarcastique, l'ironie est pour lui une science du sens autre. Elle lui permet de proposer des objets aussi saugrenus que des palmes aquatiques et pantoufles à talons hauts, sans oublier ses plastrons de décoration en capsules de bouteilles de bière et même une grenade dont les éclats sont des verroteries qui scintillent. Et que dire de ces espaces impossibles ? Sur des somptueux dessins et pastels, par le trait et les mathématiques intuitives, il nous révèle des scènes si réelles qu'elle en devienne véridique. Il est alors un magicien dont les tours sont vrais. Faudrait-il rapprocher Philippe Garrel d'Alphonse Allais et des incohérents ? Mais ces jeux sont les tours qui ne représentent qu'une infime partie de son travail, un délassement où il n'oublie pas le principal, subordonner l'émotion aux choses de l'esprit. En cette circonstance, je dois me rappeler que j'évoque l'œuvre de Philippe Garrel dans sa chronologie. Tâche impossible, et je vous préviens qu'à rien n'est aligné. Tout se mélange, mais je veux tenter la chose. Philippe Garrel a une longue carrière. Elle commence aux Beaux-Arts de Quimper, puis à Rennes, où, avec une bande d'amis, ils défendent une manière de peindre et de dessiner. Sa première exposition a lieu, voilà, 44 ans, à la Maison de la Culture de Rennes. Enfin, il monte à Paris, où il fréquente les Beaux-Arts, à quelques pas d'ici. Ce sont des dessins qui lui ouvrent les portes des galeries. À Bruxelles, la galerie Lansenberg, à Madrid la galerie Juan Lamordo, à Paris la célèbre galerie Leeb, puis longtemps à la galerie Patrice Trigano. En Italie, il y a une longue collaboration avec la galerie Forni de Bologne, qui le présentera plusieurs fois à la FIAC, puis à Art Paris et dans de nombreuses autres manifestations d'art contemporain. Du côté des institutions, les signes sont rares, mais toujours forts. Le dernier achat de l'État, un paysage au vol d'oiseau, remonte à 2014, lors de son exposition à la galerie Area à Paris, 2 ans après sa splendide occupation du musée Cognacq-Jay. Le musée de Sens, en 2012, lui rend un vigoureux hommage, tout comme la fondation de la Matmut à Saint-Pierre de Chartreuse, qui inaugure ces lieux avec une grande exposition. C'est alors que lui est confiée la réalisation d'une crypte qui abrite aujourd'hui son panthéon de bronze. Bien sûr, son œuvre est allée aux États-Unis, dans de nombreux autres pays, en Chine. Le Musée national à Pékin a récemment acquis une très grande de ses œuvres. Mais si tout cela est nécessaire pour vivre, cela ne constitue pas l'essentiel de ses préoccupations. Je ne connais pas un artiste qui a refusé autant de propositions commerciales et d'expositions. Pour lui, l'art tient ses nécessités ailleurs. Pas plus qu'il n'y a de progrès en matière d'art ou d'histoire de l'art, il y en a dans l'œuvre de Philippe Garrel. Tout de suite, son monde est posé. Il ne fera qu'en développer les possibilités tout au long de sa vie, avec une même constance. Il lui faut toujours au départ comprendre le monde par le regard et l'intuition. Ensuite, il saisit un crayon et par le filtre de sa sensibilité, la chose qu'il observe devient la sienne, tout autre que ce qu'elle semble être. Tout ce qu'il fait est chose vue, et si la chose n'existe pas, il l'invente. Tout comme Poussin, il réalise des maquettes qu'il va scruter sous différentes lumières, car la justesse de ces espaces ne peut pas s'improviser. Elle doit se vivre pour être comprise et restituée. Ainsi, chez Garrel, la réalité et la fiction se mêlent en dépit du caractère si plastique et si insaisissable des figures représentées. Une mystérieuse oscillation entre réalité et fiction, dit le conservateur allemand Rudolf Kober. Dessiner, au début il y a le dessin, il a appris de lui-même, puis au Beaux-Arts de Rennes, où il séjourne de 1962 à 1968, mais l'enseignement et à la déconstruction de l'œuvre et donner au dessin un rôle mineur. Après avoir achevé mes études, j'étais décidé, il me fallait apprendre le dessin. Dessiner, c'est décider. Pourrait-on dire qu'il y a un crayon greffé au bout du bras, tant pour lui le dessin est permanent. Depuis toujours donc, comme par la manie, il ne cesse de griffonner dans ses cahiers des notes où se mêlent les choses observées et les choses auxquelles il pense et celles qu'il fera peut-être un jour. Philippe Garrel a besoin de porter longtemps en lui ce qu'il va réaliser. C'est maintenant que je peins les tableaux dont j'ai rêvé voilà 15 ans, explique-t-il. Je me demande si tout ne viendrait pas du noir, dit Philippe Garrel, et Alain Villa lui réplique, le noir n'est-il pas la vraie lumière du sens? Presque tous ses dessins commencent au noir, souvent avec la paume de sa main, il écrase du graphite, puis avec une gomme ou de la mie de pain, il fait venir les lumières. S'ensuit un ballet d'ombre et d'éclaircies. Ne dessiner que des ombres, c'est-à-dire des instants fugaces qui disparaissent sans avoir la vanité d'arrêter le temps. Des ombres, des tableaux ou des pas grand-chose pour que l'exploit plastique soit une énigme totale. Par exemple, ces derniers dessins rendent un hommage malicieux à Malevitch. Notre artiste va ainsi toujours aussi irrévérencieux de Rembrandt à Malevich, du noir ou du blanc, du jour ou de la nuit, qui est premier? Faut-il éclairer ou assombrir un carré noir sur une toile blanche? La question est plus ardue qu'elle n'y paraît, et dans quelques grands dessins gris, Philippe Garrel n'hésite pas à y cacher derrière le papier un néon électrique qui en modifie accentue les valeurs. Le dessin le poursuit comme une expérience autonome à la fois de son art et de son être. Peindre ou aller du noir à la couleur. Si le dessin est son œuvre au noir, elle s'accorde toujours au feu de la couleur, à celle des pastels qu'il fabrique lui-même et à la peinture à l'huile. Commençons par ce qui semble le genre le plus aisé, celui du paysage. Il y a ceux de la mer et des plages en hommage à sa Bretagne. Le village où il est né n'a pas d'autre histoire que celle d'un des plus gigantesques raz-de-marée du siècle passé. En 1836, il ravagea la côte, détruisit des maisons et provoqua des phénomènes électriques qui intéressent tous les scientifiques d'Europe. Malgré cela, la devise de la ville demeure « La mer est mon plaisir ». Et cette devise semble la sienne, tant ses mers, à l'huile ou au pastel, sont toujours immenses et magnifiques. Certains de ces paysages marins sont terrifiants. Le naufrage de Amoco Cadiz sur ses côtes bretonnes le marque profondément. La marée noire abîme les paysages de son enfance et devient le sujet d'un grand nombre d'étoiles. À ceux qui pourraient croire que son œuvre se situe en dehors de son temps, nous découvrirons à la suite de ses peintures qu'elles sont toujours chargées d'un regard inquiet sur le monde, qu'elles portent en elles une dimension critique incontestable de notre société. Mais cette critique est toujours faite à sa manière, jamais par des discours, mais avec des allusions. Très souvent, Philippe Garrel montre deux temps d'un même endroit, comme le flux et le reflux d'une même vague. Dans les deux tableaux, un même ciel. Il a bougé à peine et sous lui, l'eau, tel un poumon, va et vient. Il faut regarder les deux peintures dans un même instant pour ressentir le temps qui passe. Il y a aussi ces vues à l'oiseau où la matière toute abstraite constitue des paysages tels qu'un oiseau devrait les voir et qui induisent un vertige enivrant. Il y a de ces nymphéas des scènes de marée noire où l'eau chargée de goudron charrie ces mêmes choses qui lui appartiennent pour les avoir conçues et que l'on retrouve dans les vitrines de son atelier. S'agit-il d'autocitation ou d'une certaine manière de mettre sa création en abîme? Dans une grande flaque nage une bassine dégoûtante, elle va devenir le sujet de ses soupes. Pour elle, il a réalisé des châssis adaptés à leurs contours, enserrés dans des cadres de caoutchouc noir. Dans quelques-unes d'entre elles, la lune a jeté son reflet et Philippe Garrel nous dit « Le monde devient fantastique dans la nuit. Au crépuscule, les ombres accouchent des fantasmes. J'ai toujours aimé le réveil, cet intervalle entre le rêve et le jour, quand la nuit est encore là. Mais toutes les choses sont déjà présentes. C'est dans ce passage de la nuit au jour que le monde dévoile son ambivalence. C'est le moment où, entre la réalité et l'imaginaire, qu'un nouveau rapport entre l'intérieur et l'extérieur s'instaure. À la surface de la plupart de ces soupes, on devine qu'une vigueur souterraine les anime. Des bulles, comme les yeux paraissent des menaces, poésie étrange et métaphore puissante de notre monde. Quand il les a présentées au musée de Sens, lors de sa rétrospective, elle faisait un étrange écho aux vitraux de la salle synodale qui les accueillait. Il y a aussi peint ses représentations de musées inondés, dont l'eau qui les envahit flotte à sa surface, les reflets des tableaux eux-mêmes, reflets d'autres choses. Il a aussi représenté des caniveaux où les maisons et le monde redoublent leur image. Il a encore peint des vitrines de magasins qui perturbent la réflexion des néons d'autres vitrines. Une de ses enseignes à sa prédilection, il s'agit du Luxor, néologisme suranné qui la pose comme une marque sentimentale sur de nombreux de ses objets. Pendant à ses nombreux dessins, il y a ses tombeaux. Celui de Rembrandt est plusieurs fois posé sur le chevalet et repris à des années de distance. Le tombeau de Velázquez est œuvre magistrale où le masque du peintre planté sur un mannequin observe une scène étrange. En face de lui, un squelette d'étude. Des bras articulés s'agitent. La main de l'un d'entre eux semble peindre le maître, tandis qu'une autre main tend un miroir à la mort. La coupe rouge d'un trophée incongru, une boule jaune, deux chaussures à talons proéminents, l'une bleue, l'autre blanche. Autant d'objets énigmatiques jonchent le sol de cette forge. De quel cauchemar s'échappe-t-il ? Au centre, on voit un oiseau, frère de celui que Goya pose dans la planche 43 des Caprices, intitulée « Le sommeil de la raison engendre des monstres ». C'est une chouette qui se regarde dans le miroir de l'eau saumâtre qui contient l'urne de Rembrandt. Au-delà, ce qui semble crypté dans cette peinture, comme dans bien d'autres chez Philippe Garrel, il ne faut sans doute pas chercher l'ésotérique message. Comme très souvent, en imposant le seul mystère de la lumière, il se présente comme un maître. Citons à ce propos Baptiste Marais. Au contraire du mouvement général qui, depuis un siècle, n'a cessé de dépouiller la peinture de ses moyens, Philippe Garrel cherche avec patience et ruse à les reconquérir. Celle qui montre ce qu'on ne peut pas voir, qui livre à la réflexion une vision assez belle pour faire tableau, assez réelle pour faire leçon. Sans oublier Philippe Garrel lui-même qui nous confie « La qualité de la peinture est nécessaire pour montrer l'horreur. Mais la grâce et la beauté sont également présentes dans son œuvre, notamment dans ses portraits d'Africains où tout provient d'une observation souvenue. » Et écoutons Rudolf Kober. Ainsi chez Garrel, la réalité de la fiction se mêle, en dépit du caractère si plastique et si insaisissable, des figures représentées. Une mystérieuse oscillation entre réalité et fiction. Ces visages ne sont pas des portraits au sens propre, même si Garrel pouvait penser en les créant à des personnes existant réellement. Ces portraits naissent devant le miroir dans lequel il se regarde lui-même et se transpose en physionomie autre. Mais alors se pose cette question, quand il peint un autoportrait, pourquoi s'ampute-t-il les bras? Pourquoi sur un autre autoportrait il se représente en aveugle? Ses yeux sont bouches sans qu'il ne puisse ni voir ni crier. Pourquoi? Que veut-il dire? Est-ce au statut de l'artiste qu'il pense alors, aveuglé, bâillonné par des forces qui le dépassent. Serait-ce une manière de dénoncer le mépris que l'on a pour l'art dans cette société où l'argent est devenu le seul juge? Il me revient à propos de sa série des Africains, le souvenir d'un voyage en Égypte avec lui, une semaine en bateau sur le Nil, en compagnie également de quelques amis peintres, dont notre cher Henri Cueco, qui vient de nous quitter. Sur les berges du fleuve s'embrouillent les époques, le sang et la joie, le luxe et la misère, les chefs-d'œuvre des temps et des peuples, les plus beaux récits. Et là, nous nous sommes tous demandé où serait notre place comme artiste dans le monde de demain. Face aux splendeurs du temps et aux œuvres ténaces de la nature, nous avons pesé le poids de nos vanités. Philippe Garrel a sans doute rapporté des berges du fleuve et du royaume de Méroé les images de ces femmes pauvres enrobées d'extraordinaires couvertures multicolores qu'il récomposa à sa manière, dont il fit des splendides pastels et quelques peintures. Au titre des portraits, il y a le Panthéon, qu'il s'est constitué tout au long des années. À l'aquarelle, ce sont des études souvent postérieures au tableau. À l'huile, des énigmes complexes, des sorties de rébus, comme nous venons de l'évoquer. Pour les plus surprenants d'entre eux, il a préféré la sculpture pour laisser son empreinte sur les visages de ceux qui l'ont marqué. Il s'agit d'artistes, bien entendu. Là encore, c'est un travail qui ne peut se dater, car si Delacroix, taillé dans un marbre blanc, date de 1987, les réalisations s'échalonnent sur 30 ans. La plupart modelées en terre sont fondues dans du bronze. Certains sont sur des places publiques, comme Monet à Rouen, Léon Blum à Paris, mais il y a eu la chance de tous les ressembler à Saint-Pierre de Vérangeville dans le cadre prestigieux de la Fondation Matmut. Encore d'autres portraits hantent ses carnets comme ses rires qu'il va traduire en céramique et dont les dents surréalistes évoquent au-delà de la chair des squelettes auxquels elles appartiennent. Rien n'est innocent chez Philippe Garrel. Fabriqué, disais-je en débutant. Une des plus belles expositions de Philippe Garrel s'est tenue au musée Cognacq-Jay en 2007. Le conservateur l'avait invité à installer ses œuvres parmi la fine fleur de mobilier estampillé et les tableaux de François Boucher et d'Antoine Watteau. L'artiste a veillé à le faire à la manière de, autrement dit, comme le maître de maison l'aurait fait 3 siècles plus tôt. Il installe comme un pendant à une commode de Jean-Henri Riesner un de ses meubles faits de bouts d'aluminium. Près d'une porcelaine galante représentant un jeune couple, il rapprocha 2 chiens de la même matière et qui, avec la discrétion conforme à l'établissement, faisaient trivialement ce que les jeunes amoureux avaient dans leur tête le projet de faire. Philippe Garrel fait naître dans notre esprit une confusion réjouissante, un trouble joyeux, une ironie toute socratique, ferme mais sans méchanceté, et qui nous permet d'apprendre les questions que pose un musée aujourd'hui sans aucune pédante prétention théorique. Un vrai gai savoir. Avec Philippe Garrel, c'est apprendre ou à laisser, comme sa relation à Rembrandt, par exemple. S'affronter au maître absolu du clair-obscur n'est pas tâche facile, et ce n'est d'ailleurs pas son projet, mais durant des années, il constitue une forme de cabinet de curiosité qui ressemble tout l'attirail de l'atelier du Jean Hollandais. Et clou de l'opération, Garrel invente un parfum aux effluves de térébenthine. Alors, hommage ou ironie? La puissance de chacun de ses créations fait oublier Rembrandt pour imposer ce qui n'est qu'à lui. Pour Philippe Garrel, reconstituer ne correspond pas à approcher les choses comme elles furent, mais avec le cœur enfant et la main habile, restituer des trésors communs à nos consciences. On ne saura rien de plus de Rembrandt, sinon qu'il est toujours une pile active de l'amour de la peinture. Comme l'immense avion en aluminium ou cette moto, son sidecar dans la même matière, qu'il vient juste d'achever, objet qui active l'imaginaire de l'enfance. Pour Philippe Garrel, il n'y a pas de hiérarchie dans des sujets. Faire l'inventaire pittoresque de son œuvre montre qu'il n'y a pas d'éparpillement et que, comme dans le monde des rêves éveillés, tout s'emboîte et s'harmonise, car il ne faut jamais perdre de vue que son véritable et principal sujet est le temps sous toutes ses formes. Pour lui, l'art travaille le monde des apparences avec la mémoire de ce qu'il fut. Permettez-moi encore un retour en arrière d'évoquer une série de tableaux, ces panoramas atomiques, où il superpose des plans de Paris, les circonvulsions d'un chou-fleur qu'il a longtemps observé, qui prend tout à coup l'aspect d'un champignon atomique. Et comme Garel ne craint pas le pire, il décline cette forme menaçante en une lampe de salon, tout à fait design. Avec lui, on ne sait jamais où on est, c'est vraiment à prendre ou à laisser. Mais qui est donc Philippe Garel? C'est lui qui pense l'espace, chacun de ses tableaux est une équitation spatiale. C'est lui qui joue des objets, chacun d'eux pousse à rire ou à angoisser. C'est lui qui fait parler le temps. Une de ses récentes séries est une galerie de portraits pré-mortem. Ce sont des amis peints comme s'ils venaient de mourir, histoire de gagner le temps. Philippe Garel nous offre aujourd'hui, au sein de cette académie, une exposition dans laquelle il nous présente des peintures étonnantes que j'ai évoquées, celles de ces musées vides et inondés, présages pour se prémunir de nos vanités. Il nous présente également de grands dessins animés par des ombres seules. Pourquoi tant d'énergie, sinon pour convoquer cette joie intime qui exorcise la mort et nous, en nous maintenant debout face à elle, tout en nous occupant? C'est aussi ce que je pourrais moi-même penser. Pour finir et justifier l'embarras dans lequel je vous ai entretenu, j'aimerais évoquer une de ces dernières pièces figurant également dans l'exposition que nous allons découvrir tout à l'heure. Il s'agit de deux dessins, des aplats monochromes. Attendez-vous à rien y voir, mais surtout, attardez-vous. Regardez-les attentivement et vous serez témoin du mystère que l'art produit. Vous imaginez que ces deux surfaces sont droites sur le mur. En êtes-vous sûr? Voulez-vous les voir comme vous les pensez? Mais non, elles ne sont jamais là où vous les attendez. Philippe Garel les a intitulés « les inalignables ». Je me demande alors si ce mot ne va pas réparer tous mes embarras. Et c'est justement, Philippe Garel était bien lui-même un inalignable. Mesdames, Messieurs, merci de l'attention que vous avez bien voulu m'accorder.
Chers confrères, je vous remercie. La parole est à présent à Monsieur Philippe Garel.
Vladimir Velichkovic. J'ai toujours plaisir à prononcer ce nom, que j'articule toujours avec soin. Il est définitivement associé à un bonheur de peintre que j'ai éprouvé au début des années 70 face à un de tes tableaux que le souvenir me rend immense et qui représentait une scène de laboratoire où se déroulait une expérience autour d'un lévrier en pleine course, élégant et violent, puissant et gracieux, souligné de chiffres, de notations techniques, une sorte de crash test de la beauté, le tout peint avec une autorité que je pensais perdue. Tu viens à nouveau de brosser le portrait d'un beau peintre. Il me reste à tenter de lui ressembler. Si j'y parvenais, ce serait, ne cesse qu'un peu, ce serait déjà pour moi considérable. Merci à toi et à tous de m'accueillir. C'est un grand et unique moment d'émotion que je m'apprête à vivre parmi vous. Vous imaginez bien que pour un peintre qui vit le plus clair et surtout le plus sombre de son temps, à ruminer ses tons dans sa peinture, apparaître en pleine lumière, dans un tel décor, dans une telle circonstance, dans une telle tenue, a de quoi intimider les plus hardis. Aujourd'hui, ce que célèbre cette cérémonie, c'est la peinture. À travers l'un de ses serviteurs les plus rigoureux et les plus engagés, Georges Rohner, à qui j'ai le privilège de succéder. Le XXe siècle et Georges Rohner se sont retirés ensemble, en l'an 2000. Ils se sont accommodés plus qu'aimés. Sans le renier ni sans réclamer, Rohner en fut simplement l'hôte, pas l'apôtre. Plus prolongateur qu'interrupteur, il étendra son registre pictural au-delà des limites de son propre siècle. Mais l'inconfort qui en résulte recèle aussi des vertus. Il mobilise les énergies de survie, exalte les idéaux. L'émancipation est au prix de l'affrontement, la ronde de nuit de Rembrandt, le radeau de la Méduse de Géricault, le déjeuner sur l'herbe de Manet, Guernica de Picasso ont aussi souffert ou bénéficié, en leur temps, d'un biotope, sinon hostile, du moins inhospitalier. Le contemporain est travaillé par l'anachronisme constitutif de toute œuvre d'art, relevait Daniel Arras. À l'outrance, qui est la griffe du XXe siècle, Rohner opposera la retenue, à l'urgence la patience, au vacarme le silence. Aujourd'hui, plus blâmé qu'honoré, la peinture doute. Depuis 100 ans, son espoir de survie décroît régulièrement. Sa fin, ou ses fins, rectifierait Marc Lebot, est annoncée. Ses obsèques publiées et même ses funérailles célébrées. Diagnostic évoqué, abus ou carence de modernité, amnésie chronique, dépendance ou intolérance à la térébenthine, monomanie stylistique, trop d'excès, point de remède. C'est l'âge, comme on dit quand on ne sait pas. La modernité a vieilli, on l'a rêvé jeune à perpétuité, certains se résignent, d'autres applaudissent, d'autres encore résistent. Ce funeste bilan de santé à la CNOC est de 2017. En 1933, la peinture souffre déjà des premiers symptômes. Et Rohner a 20 ans. Quelles nouvelles utopies nourrissaient les rêves indociles des jeunes peintres des années 30 ? De quelles anciennes nouveautés fallait-il se défaire ? Comment se soustraire aux exigences du temps ? C'est qu'ils ont été instruits à l'école de la transgression et leur devoir de modernité leur assigne la désobéissance. Leur père s'appelle Picasso, Monet, Kandinsky, Mondrian, Braque. Tous héros admirés d'une exaltante épopée moderne à laquelle ils auraient aimé participer et espèrent bien leur ressembler. Non pas en récitant leurs formules comme des disciples zélés, mais en adoptant leur indépendance, leur liberté. L'imitation des modernes, constate Octavio Paz, a stérilisé plus de talent que ne l'a fait l'imitation des anciens. Mais en 1933, la fête tire déjà à sa fin. Les trophées sont attribués, les médailles distribuées. Il reste bien quelques reliefs du festin fauviste, cubiste, et peut-être quelques petits rôles de figurants pour les retardataires. Autant dire, rien à la hauteur de l'insatiable appétit d'un peintre de 20 ans. Pas de regret pour lui, c'est à la table des maîtres qu'il veut souper. Et à qui reprocherait-on cette impatience ? À Raphaël, qui a 21 ans lorsqu'il peint le mariage de la Vierge ? À Géricault, qui en a 28 pour le radeau de la Méduse ? À Rembrandt, 26 pour sa leçon d'anatomie ? au Caravage, 24 pour les tricheurs, Velasquez, 21 pour le porteur d'eau, Delacroix, 24 pour la barque de Dante. La vie était d'autant plus incertaine, l'urgence étant d'autant plus pressante. Il est temps, je crois, de poser quelques repères biographiques et historiques liés à l'évolution de l'œuvre de Rohner. 1913, naissance à Paris. 1929, rentre à l'école des Beaux-Arts de Paris. Il y a pire endroit et moment pour naître à la vie et à l'art. Intègre l'atelier de Lucien Simon, peintre brillant et réputé dans ses années, momentanément oublié, je l'espère, et s'apparente par l'aisance de sa facture à Hals et à Velasquez. Pour Rohner, qui a 18 ans, cette rencontre sera déterminante. Elle fixera définitivement son affection pour le dessin et révélera également un goût commun pour la Bretagne qui occupera, pour chacun d'eux, une place importante dans leur œuvre et dans leur vie. Il y rencontrera aussi des jeunes peintres, Humblot, Jeannot, Lannes, Pélan, Talcouat, avec qui il partagera tout au long de sa vie non seulement l'amitié, mais les convictions. C'est même un groupe qu'ils formeront dès 1935, impulsé par un peintre et critique Henri Hérault, sous le nom de Force Nouvelle, au pluriel. Ce jeune groupe entend affirmer ses convictions humanistes, réalistes et classiques, comme une alternative à une modernité triomphante, oublieuse, selon eux, des règles qui régissent la pratique séculaire de la peinture, dernière utopie, le réel, dira plus tard Gladys Fabre. Mais loin de l'image de quiétude qu'on lui accole trop commodément, le réalisme traverse des zones de turbulence, où les peintres qui s'en revendiquent s'affrontent parfois avec l'énergie d'héritiers spoliés. La figuration et précisément le réalisme, dans les années 30, firent l'objet de convoitises et de spéculations de toutes sortes dans le contexte politique tragique que nous connaissons. Il nous reste de cette époque une vision équivoque, confuse, disparate, entre méfiance et attirance. L'image de la figuration sera assortie d'une insidieuse suspicion qui perdure confusément jusqu'à aujourd'hui. En fusion ou en tension, en accord ou en défiance, le réalisme aura occupé et préoccupé l'imaginaire des peintres des années 30. Il faut rappeler que le réalisme est un affluent de la figuration, au même titre que le cubisme, l'impressionnisme, le romantisme, l'expressionnisme. Si tous les réalistes sont figuratifs, tous les figuratifs ne sont pas réalistes. Nos décisions résultent souvent de compromis entre nos capacités et nos goûts, nos aptitudes et nos désirs. Ceux qui parviennent à les accoupler sont comblés. Les autres accèdent à l'harmonie, dont il existe toutes sortes de combinaisons. Les autres puiseront leur substance de l'inconfort et du doute. L'œuvre de Rohner résulte de la première logique. Un goût et un talent naturel pour l'exactitude, un sujet ou un motif pour l'exprimer, une technique ajustée pour l'affirmer, des repères historiques pour la structurer. La somme est une œuvre juste, insensible aux modes et aux spéculations. Ce qu'il fait est à l'exacte verticale de ce qu'il est. Doté de tels avantages, son œuvre prospère et s'accomplit. L'énumération des expositions personnelles et collectives me paraît bien trop longue pour vous l'imposer, bien que, reconnaissant leur importance dans la mémoire d'une œuvre, un choix de commentaires, d'analyses et d'extraits de chroniques qui vont ponctuer sa longue carrière me semble mieux convenir à cette circonstance. Claude Roger Marx, Le Figaro littéraire de 1956. Chez Rohner, le scrupuleux examen des formes est l'une des voies qui mènent au mystère. Pierre Descargues, Les Lettres françaises, en 1956. Cette œuvre tire le maximum d'expression de la plus petite variation de composition. Jean-Luc Chalumeau, en 1983. Son carré noir est aussi proche de l'autoportrait romain de Poussin
que la composition de Mondrian. Le langage de Ronner puise son originalité dans l'amour de la peinture, de toute la peinture. Pierre Cabanne, en 1972, Degas peignait des états d'yeux. Ronner exprime des états d'esprit. Ou encore, Ronner a inventé le nouveau réalisme pictural. Lydia Rambourg, La Gazette de Drouot, en 1998. Ronner nous apprend à regarder autrement le monde qui nous entoure, en suspendant le temps. La peinture doit toujours être gâtée. Cette formule ou cette prescription est extraite du journal de Delacroix. Les accidents, réels ou fictifs, les coulures, les taches, les corrections, les repentirs, toutes ces imperfections qu'il semble vouloir nous recommander, tous ces effets placés ou oubliés qu'il propose de remettre en jeu, nous racontent la vie du tableau avant qu'il nous parvienne. Il entend nous rappeler que dans un tableau, il y a aussi un peintre et de la peinture. Je fais ce détour par Delacroix pour exposer ce que Ronner très soigneusement évite. Pour lui, la peinture doit simplement être irréprochable. Aucune imperfection ne doit venir affecter la lecture du tableau. Sa facture est discrète, impartiale, sans artifice, sans gesticulation, sans éclat, sans caprice, sans pathos. Il travaille à l'abstinence, à la retenue, à l'indispensable, et il mobilise pour y parvenir de solides moyens techniques. Certains peintres spéculent sur la providence. L'avancement de leur chantier s'élabore sur les opportunités qu'ils croisent et sur lesquelles ils s'appuient pour avancer. Ce sont des chasseurs-cueilleurs. Leur méthode est l'intuition, leur talent l'improvisation, et ce que nous leur envions, c'est leur désinvolte assurance. D'autres sont jardiniers, éleveurs. Ils combattent l'imprévu, préviennent l'intempérie. Pour eux, le tableau commence par un projet médité, maquetté et validé avant d'être mis en chantier et façonné selon un procédé technique strict et rigoureux. Deux approches opposées qui ont animé les débats ici même il y a deux siècles. Deux peintres, entre autres, ont incarné cette divergence. Ingres, qui occupait ce même fauteuil, et Delacroix, qui en occupait un autre. La filiation de Ronner est claire, c'est avec Ingres qu'il fera alliance, ainsi qu'avec la lignée entière. Il est d'extraction classique, et il l'affirmera en peintre, à travers un tableau manifeste, le Musée imaginaire, peint entre 1975 et 1976, et qui met en scène son panthéon dans lequel on ne s'étonnera pas de voir figurer Ingres, Chardin, David, Montaignat, Philippe de Champaigne, Corot, Rembrandt, Paolo Uccello, Mondrian, rappelant en passant par la présence de ce dernier que le classicisme ne se réduit pas à la seule figuration, ce qui disqualifie les vieux antagonismes simplistes, figuration-abstraction. Revenons à ce tableau qui est bien plus que le numéro 880 de son inventaire. C'est une quintessence, c'est celui qui vous ouvre à tous les autres, sa pierre de rosette, et il contient tout ce qui vous est nécessaire. Un vade-mecum et à la fois un ex-voto, conçu en remerciement d'une grâce obtenue ou d'une dette. Les peintres entretiennent avec la peinture des autres des relations équivoques. Ils la regardent comme ils la font, à portée de main. C'est leur place réservée. De là, ils s'introduisent par l'entrée des artistes ou de service et accèdent aux coulisses, à la machinerie, aux artifices scéniques. Pour eux, la magie n'est pas dans l'apparition des lapins ou des colombes, mais dans la complexité des moyens pour y parvenir. C'est la manipulation qui les intéresse, et nous sommes tous en quête de combinaisons inédites. Lorsqu'un peintre emprunte un passage inexploré, il débouche naturellement sur des solutions novatrices et nous plonge dans un délice de perplexité. Celui de Renner ne s'obtient pas par des effets d'évanescence, de fondu, d'effacement, de recouvrement, tout un jeu savant de perturbations parfois magnifiquement déployées par Turner ou Monet. Le mystère, chez René, apparaît par des voies contraires. Il scrute le réel, non pas pour le dénoncer ou pour l'exalter, mais pour le comprendre. Il ajuste le chaos, structure le vague, lève la brume. En affirmant la forme, il formule le mystère. Après avoir posé l'équation, il la résout par déduction, un métamaticien. Chez Renner, le réalisme sert d'appât, comme les fleurs carnivores qui captivent pour capturer. C'est avec un double sentiment contraire d'attirance et de méfiance que l'on s'introduit dans ces tableaux. D'abord, tenté par le menu, bien équilibré, bien composé, à la française, comme on le dit des jardins, au cordeau, au carré, à l'équerre, tout est en place dans ce décor ordonné. Pas d'indice des dangers apparents, c'est notre méfiance s'assoupit. Les premiers signes d'inquiétude proviennent paradoxalement de cet excès de confort dans lequel nous nous sommes installés. Tout est trop vraisemblable pour être vrai. Vrai à l'excès, trop immobile, trop silencieux. Une inquiétante précision, notera encore Gladys Fabre, et ajoutera « L'intelligence réaliste est dans l'autosubversion ». Le recours à l'exactitude ne se conçoit pas chez Renner comme une vertu de patience, mais comme un préalable indispensable d'un événement imminent, un moment d'incertitude suspendu, un doute, une interrogation, une apnée. En ralentissant l'exécution, il pose, il impose l'observation. Affranchi des servitudes modernes, à la fois anciens et modernes, et tout autant ni l'un ni l'autre, il faut revoir nos critères, replier nos guides pour infiltrer cette œuvre. Et pour en devenir l'hôte, il faut se rappeler la charte, absence délibérée d'artifice et d'enjoliveur, lisibilité totale, les motifs représentés sont corrigés, rectifiés, redressés, parfois même sacrifiés, non pas pour les rendre plus réels, plus naturels, mais pour les plier aux exigences de son tableau. La couleur, le dessin, la perspective, les espaces nus compris, subissent sans même hiérarchie le même conditionnement. Tous auxiliaires d'une cause première, le tableau. Selon Elifor, Velasquez, après 50 ans, ne saisissait plus dans le monde que les échanges mystérieux qui font pénétrer les uns dans les autres les formes et les tons. Georges Renner ajouterait sans doute l'abstraction et l'armature de la figuration. Rodin n'est modéré que d'apparence. Ou si l'on peut dire, sa modération est extrême. Il est aussi ardemment abstrait que figuratif, et son œuvre n'entreprend rien de moins que d'assortir ses contraires pour générer une osmose, une sorte d'abstraction objective. Chez les artistes réalistes, le rapport à la ressemblance est complexe. Il aspire à bien plus qu'une simple conformité au motif. C'est précisément la complexité de l'écart, même infime, entre le modèle et son rendu qui mobilise toute l'application de Renner. Et c'est l'intelligence de son assemblage, dissemblance-ressemblance, qui nous interroge. Précepte familier aux peintres et partagé par tous, oublié à force d'être négligé, et c'est un grand mérite de l'avoir exhumé. C'est cet émerveillement du réel, comme une fiction éternellement reconduite, que Georges Renner nous convie. J'ai éprouvé en m'infiltrant dans l'œuvre de Renner de la solidarité et même de la connivence envers un peintre, dont l'engagement intempestif pouvait s'apparenter au mien 30 ans plus tard. Bien sûr, et c'est la moindre des choses, une même passion pour la peinture nous rapproche, mais ce qui nous lie, c'est l'accès escarpé que nous empruntons pour l'explorer. Ça m'a élevé, mes yeux ont porté plus loin. Avant de conclure, je veux exprimer quelques remerciements et excuses auxquelles Georges Rohner se serait, je pense, associé. D'abord, merci aux bleus d'outre-mer et de Prusse, aux bruns de Madère, à la terre de Cassel et de Sienne, aux noirs de Mars et de Judée, aux jaunes de Naples, aux rouges de Chine, qui m'ont fait tant voyager autour de ma palette à l'écoute des conseils désespérément muets de mes illustres guides. Merci au lin pour l'onctuosité de son huile et la robustesse de sa fibre. Pardon et merci à l'écureuil Petit Gris et à sa cousine la Marthe Kolinsky pour les prélèvements abusifs de ses poils à pinceau, à la souplesse incomparable. Merci au White Spirit, le bien nommé, à la térébenthine, dont j'avoue avoir, moi aussi, un peu abusé. Et enfin et surtout, merci à tous.